Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ça ne peut pas être plus clair. Il y a des gens pour qui la prédication, ça ne sert à rien. C'est ridicule, c'est de la folie. Et il y a des personnes pour qui c'est une puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'au travers du message de la croix, eh bien, le Seigneur manifestait sa puissance. Alors, on va lire quelques comportements. Vous les avez sans doute lus. Dans l'évangile de Luc, le jour où Jésus-Christ a été crucifié, il y a tout un tas de comportements. Peut-être que vous allez vous retrouver dans un de ces comportements. Peut-être que vous allez, au contraire, vous émerveiller de ne pas être dans ces comportements, d'en être peut-être dans celui de l'un qui a bien réagi. Donc, dans Luc, au chapitre 23, verset 26, nous allons partir de cette fameuse affaire où un homme qui revenait des champs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être son outil sur l'épaule, et qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'obliger à faire quelque chose qui va être... Il ne s'imaginait pas, ce bonhomme, ce jour-là, que dans toutes les églises du monde, dans tous les siècles, on parlerait de lui par rapport à ce qu'on le forcerait à faire. Luc 23, 26. Comme ils amenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait ces choses au bois sec, au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés, au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent, là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là, et regardez, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est l'élu, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Amen. Amen. Alors, vous avez lu avec moi ce texte. Je vais donc vous poser une question. Dans quelle personne vous retrouveriez-vous ? Puisqu'il y a tout un tas de situations, vous avez vu sa part d'un homme qui revient des champs, qui croise ce cortège terrible et à qui on le force, peut-être un homme qui était jeune, musclé, et Jésus ne pouvant plus porter sa croix, ce qui indique que même cette affaire si terrible, le Seigneur Jésus ne pouvait même pas lui-même tout seul porter sa croix, il a fallu qu'on l'aide. Et la semaine dernière, je lisais le témoignage d'un pasteur en Angleterre, d'un pasteur qui a fait un travail formidable et qui était découragé. Il est arrivé au moment d'un tournant de son ministère, il était découragé, il s'appelait Siméon. Et il a fait quelque chose qu'il ne faisait pas. Il a demandé à Dieu, mais aide-moi, montre-moi. Je portais la croix, je n'en peux plus. Est-ce qu'il faut que je continue à porter ma croix? Et il ouvre la Bible, et ce qu'il ne faut pas faire, et il ouvre la Bible au hasard, et il tombe sur ce texte où il nous est dit qu'ils prirent un certain Simon de Cyrène et qu'ils le forcèrent à porter la croix. Et cet homme, en lisant ce texte, a dit, mais Seigneur, je ressens dans mon cœur que tu veux que je porte la croix, même si je dois me forcer, je vais le faire. Et cet homme est devenu un homme de Dieu extraordinaire. Si vous voulez le témoignage que j'ai lu de lui, extraordinaire, parce que en lisant ce texte, il s'est identifié à cet homme, puisque c'est le même mot Simon Simon de Cyrène, oui, et Simon en anglais, oui. Et voyez, et cet homme est devenu un brillant homme de Dieu parce qu'il a été touché. Mais quand même. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à porter la croix? Est-ce qu'on peut dire, voilà, il te faut te convertir, il te faut marcher avec Dieu? Il y a des gens qui le font, il te faut être chrétien, il te faut devenir chrétien. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Je pense qu'on devient chrétien de cœur, c'est nous qu'on choisit de devenir chrétien. On ne voit jamais le Seigneur qui a forcé quelqu'un. Michael le répétait tout à l'heure, que le Seigneur a été considéré comme un gentleman, et c'est vrai que le Seigneur ne force personne. Il présente la vérité, jamais il ne force, même quand tout va très 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 mal, qu'on l'a même mis dehors, dans l'église de Laodicée, on a mis le Seigneur dehors, involontairement, j'en conviens, mais on l'a quand même mis dehors, eh bien Jésus dit, je te conseille. Je pense que ça va tellement mal que Dieu pourrait dire, là c'est clair, je vais vous forcer un petit peu, ça va être pour votre bien. Eh bien non, le fameux gentleman en question ne nous forcera jamais, il nous demande de faire les choses de bon cœur. Oui, ce fameux jardinier qui revenait des champs, il ne savait pas ce jour-là que dans toutes les églises du monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans tous les siècles, on a parlé de lui. Il était loin de s'imaginer comment il a vécu ça, comment vous le vivriez-vous, aujourd'hui que vous connaissez Dieu, comment le vivriez-vous, l'accepteriez-vous? Aider le Seigneur Jésus dans son œuvre, c'est une grâce. Et même si le Seigneur nous forçait réellement, je pense aux personnes qui sont bien attachées à Dieu, si le Seigneur nous forçait à faire quelque chose, je crois que ça serait une grâce. C'est bien de prendre soin de sa femme. Ça, il faudra l'enlever. C'est bien. C'est bien d'aimer sa femme. Moi, je suis persuadé que c'est une grâce. Je lisais, je ne sais plus où, dans l'Ancien Testament, je lisais que les ordres de Dieu sont une bénédiction. Est-ce que vous en êtes arrivé à ce stade? Vous pouvez dire, ce que le Seigneur me demandera, ce qu'il voudra que je fasse, je le considérerai comme un honneur. Et c'était quand même un honneur pour Simon de Cyrène. On peut le tordre comme on veut, on peut le calculer comme on veut. C'était quand même une grâce, ce qui lui est arrivé. Vraiment. On ne sait pas ce qu'il est devenu, mais je peux vous dire que cet homme a dû garder un souvenir extraordinaire de cette affaire. Un peu plus loin, on voit des femmes qui pleurent. Elles pleurent, des femmes qui pleurent devant ce qu'elles sont en train de voir. Alors, d'après vous, est-ce que c'est normal de pleurer devant cette affaire-là? Est-ce que c'était normal que ces femmes pleurent devant la souffrance du Seigneur? C'est quand même, ça devait être terrible cette affaire. Et qu'est-ce qui se passe? Des femmes qui se frappaient la poitrine, c'est une manière d'exprimer, en Orient ils le font. Il y en a qui le font en France quand ils souffrent aussi. C'est quand la souffrance est telle qu'on se frappe la poitrine. Et là nous voyons des femmes qui se frappent la poitrine, qui sont dans une souffrance totale. Certes, personne ne comprenait. Il n'y a qu'une femme, Marie, qui a compris que Jésus allait mourir. Parce qu'elle avait passé du temps avec lui et elle avait reçu la pensée que Jésus-Christ allait mourir. La preuve, c'est que quelques jours après, vous savez qu'elle lui a offert du parfum, elle l'a parfumé en vue de sa sépulture. C'est pour vous dire que c'était la seule qui avait compris, à cause du temps de qualité qu'elle avait passé dans sa présence, elle savait que Jésus-Christ allait mourir. Tout le monde, les apôtres avec, n'avaient pas compris que Jésus-Christ devait mourir sur le bois de la croix. Ça fait que tout le monde est dans la confusion. Et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles souffrent, elles se frappent la poitrine et elles se lamentaient sur Jésus. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Et là, nous avons une explication extraordinaire par rapport aux choses spirituelles, par rapport à la prédication de la croix. Regardez ce que fait Jésus. Alors que Jésus est en train de souffrir, il ne peut plus porter sa croix, on l'a aidé. Et là, il voit ces femmes qui sont à quelques mètres de lui, ou dizaines de mètres, j'en sais rien, qui pleurent, et il va prendre le temps de nous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En même temps, il les aide, bien sûr. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. » Vous vous rendez compte? « Mais pleurez sur vous. Quel enseignement! Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elles avaient tout à totalement raison. Jésus aurait pu ne rien dire et nous, on en aurait déduit que c'était normal qu'elles pleurent. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. La prédication de la croix, c'est sûr que ça ne doit pas devenir quelque chose de sentimental. Ça ne doit pas nous amener à dire, oh, et il y a des gens, quand ils regardent le film de Jésus, ils pleurent. Il y a des gens qui pleurent en voyant la crucifixion, mais ils ne se convertissent pas. Il y a déjà des gens qui pleurent en regardant un film avec un peu d'émotion, ils pleurent. Il y a déjà, ils regardent les films, ils pleurent. Moi, un jour, j'ai vu quelqu'un qui pleurait. J'ai dit, ça te fait du bien de voir ça? Tu pleures? Ça te fait du bien? Ah oui, c'est merveilleux. Ah, j'ai dit, bon, c'est bien. Moi, je ne veux pas m'immiscer, mais moi, je trouve qu'il y a mieux qu'à faire qu'à pleurer. Bon. Et Jésus leur dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est une question que nous, on peut se poser. Quand nous avons entendu parler de la prédication de la croix, quand nous entendons parler, comme maintenant, de la prédication de la croix, est-ce que nous en faisons une affaire sentimentale, comme un film à plein d'émotions, avec plein de souffrances, etc., qui nous ferait pleurer, ou est-ce que nous pleurons sur nous-mêmes? Que cela nous ramène à comprendre, mais pourquoi il fallait-il que Jésus souffre? Pourquoi fallait-il que Jésus soit crucifié? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Il y a des gens, quand à Noël, ils fêtent Noël, ils vont verser quelques larmes parce que tout est plein d'émotions. Mais ils n'ont jamais pleuré sur leur péché. Il y a des gens qui se vantent d'être chrétiens et qui ne se sont jamais repentis de leur péché. Et c'est ça que Jésus est en train d'enseigner, de ne pas en faire une affaire sentimentale, mais d'en faire une affaire profonde. La vie avec Dieu, c'est quelque chose de profond. Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Et oui, parce que c'est sûr que n'importe qui regarderait le film de Jésus a de quoi être touché, a de quoi être bouleversé, puisqu'il y a de la souffrance. Comme je le répète dans un autre film qui parlerait de souffrance. Mais est-ce que vous avez pleuré sur vous? Est-ce que vous pouvez dire oui un jour, peut-être pas verser des larmes extérieurement, mais intérieurement? Est-ce que vous avez dit, mais c'est à cause de moi que Jésus est mort? Cette affaire, mais c'est, si là il ne comprenait pas, maintenant je comprends. Parce que j'ai lu les évangiles, et il fallait qu'il souffre, et il fallait qu'il meure, et il fallait qu'il soit crucifié, et il fallait qu'il vive tout ça. Est-ce que vous avez pleuré sur votre péché? Est-ce que vous avez dit, je suis un pécheur, c'est mon péché qui me coupe de Dieu, c'est mon péché qui me sépare de lui. Oui, c'est bien de pleurer sur lui, ça va un moment, mais il faut que je pleure sur mon péché. Je suis perdu, si je meurs, où je vais? Comme on l'a chanté tout à l'heure, lorsque s'ouvrira le grand livre. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? Ça aussi c'est une question qui a souvent servi d'ailleurs de prédication. Moi j'en ai fait plusieurs prédications là-dessus. Votre nom est-il inscrit dans le livre de vie? C'est pour ça qu'il faut apprendre à pleurer, pas pour pleurer tout le temps. Je ne crois pas que Dieu puisse permettre la culpabilité pour que l'on se culpabilise tout le temps. Je crois que Dieu permet la culpabilité pour qu'on puisse vraiment se repentir et obtenir la joie du salut. Car je trouve que la joie du salut, c'est quand même une bénédiction. Vous ne trouvez pas? Parce que des fois, on perd. Il n'y a pas beaucoup de joie parce qu'on est éprouvé dans le corps, on est éprouvé dans la famille, on est éprouvé dans le travail. Est-ce que ça peut arriver d'être éprouvé en même temps dans plusieurs choses? Mais on peut garder toujours la joie du salut. Et quand je prêche sur ce verset, réjouissez-vous dans le Seigneur, je pense que c'est parce qu'on est sauvé. Hein, rappelez-vous quand les apôtres sont revenus avec joie de mission, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus, il a dit, ne regardez pas trop au résultat, ne vous réjouissez pas du résultat, parce que le résultat, il faut être honnête, le résultat, ça va, ça vient. Le résultat, c'est une chose, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et si vous devez vous réjouir, réjouissez-vous parce que vous avez pleuré sur vos péchés et que vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Tout à l'heure, il y a une jeune fille qui me demandait le baptême et je lui ai posé la question, avez-vous accepté Jésus comme sauveur ou avez-vous accepté Jésus comme sauveur et comme Seigneur? Et au bout d'un moment, elle m'a dit, non, je l'ai accepté comme sauveur et comme Seigneur. Ça fait un an que je viens, je crois qu'elle m'a dit, et je m'applique à obéir à Dieu, parce que je ne veux pas qu'il soit mon sauveur, je veux qu'il me dirige. Est-ce que c'est bien? Eh bien voilà ce qui se passe quand quelqu'un a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Après, il nous est dit que Jésus sur la croix, la première parole de Jésus sur la croix, et celle-ci, c'est extraordinaire. On ne peut même pas se l'imaginer. Vous le savez, vous l'avez lu, mais je ne sais pas si vous vous imaginez dans quel état de souffrance devait couvrir le calvaire à cause de ces trois crucifiés. Ça devait être quelque chose de terrible. Je ne sais pas si vous vous imaginez un instant la souffrance. Moi, j'ai lu des bouquins sur la crucifixion à l'époque de Jésus, là, à l'époque des Romains. Parfois, il y avait une telle souffrance, des insultes, les gens qui étaient crucifiés, insultaient leurs bourreaux, insultaient la foule, et on leur coupait la langue pour qu'ils arrêtent d'insulter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on montait sur la croix, on leur coupait la langue pour que les brigands arrêtent d'insulter la foule et les soldats. Tellement les paroles devaient être d'une insulte pas possible. Et là, Jésus qui a souffert, parce qu'il n'a pas souffert que la crucifixion, il a souffert la flagellation, il a souffert dans le jardin de Gethsémané, et il avait beaucoup souffert avant. Et là, Jésus qui est crucifié, certainement couvert de sang, la première parole qu'il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il avait enseigné le pardon sur le lac de Galilée. Ça devait être merveilleux, le soleil, ça devait être magnifique quand il enseignait sur le pardon. Mais là, il n'était pas en train de l'enseigner. Là, il était en train de le vivre. Et je crois que c'est une chose de parler du pardon, et ça en est une autre de le vivre. Et là, Jésus est en train d'enseigner que l'on peut pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Est-ce que vous avez déjà dû pardonner quelqu'un ? Combien de fois avez-vous pardonné quelqu'un ? Avez-vous dû pardonner quelqu'un ? On fait un test ? 5 fois, 20 fois ? Par exemple, Madame Delarbre, combien de fois il faut la pardonner ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein ? Mais est-ce que vous avez déjà dû pardonner ? Il y a des gens, des fois, ils sont offusqués parce qu'on leur a marché sur le bout du pied. Alors, je ne comprends pas, il aurait pu regarder où il marchait, etc. Là, Jésus, on n'a pas marché sur les pieds. On l'a crucifié et la première parole qu'il dit, il prie, c'est une prière. Il prie le Père pour qu'il soit pardonné. Ça veut dire que lui, il avait déjà pardonné puisqu'il demande au Père de les pardonner. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il arrive bien souvent dans les églises que les gens découvrent l'évangile, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont une religion, mais ça ne leur sert à rien. Ils prient, mais ça ne leur sert à rien. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font le mal, ils ne s'en rendent même pas compte. Ces soldats-là, les gars qui ont crucifié Jésus, ils faisaient leur boulot, oui ou non ? Vous auriez été soldat, est-ce que vous auriez dû le faire ? Eh bien oui, vous auriez été soldat, vous auriez dit, voilà, c'est ton jour, ben voilà, aujourd'hui il y a 3 brigands, il y a 3 gars, là, il y en a un, il est bizarre, tout ça, il faut le crucifier. Voilà, les gars, ils faisaient leur boulot. Les gars, ils faisaient leur travail. Et il y avait ceux qui faisaient leur travail, il y avait les magistrats, etc. Il y avait tout le monde, cette foule qui assistait. Quel spectacle ! Vous avez vu le terme de la fin, le spectacle. Quel spectacle ! Oui, je ne sais pas si... Quoi qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça existait. Je me demande bien s'il n'y a pas beaucoup de gens qui iraient voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Si aujourd'hui il y avait des crucifixions sur la colline de Pêche-David, là-haut, hein, dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui iraient voir ? Moi, je pense que oui. Tellement les gens ont une curiosité malsaine. Mais voyez, Jésus, il pardonne. Et cette parole, elle parcourt les siècles. Et je ne sais pas si ça vous fait du bien de savoir que même si on ne sait pas ce qu'on fait, même si on patauge complètement, le Seigneur, si on vient vers lui, il est capable de nous pardonner. Voilà la grâce de Dieu. Voilà la prédication de la croix. Vous comprenez pourquoi il a dit « Il a plu à Dieu de sauver les hommes et même les croyants, par la folie de la prédication. » Parce que la prédication, elle a le pouvoir de nous raccommoder avec Dieu, de nous faire retrouver toujours le pardon. Quelle bénédiction de savoir que Dieu pardonne. Vous n'avez pas besoin de pardon, vous ? Vous n'avez pas besoin ? On a besoin de pardon. Quelle grâce ! Dieu pardonne. Ésaïe dit « Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». Et le pardon, c'est sur la terre qu'on l'obtient. C'est sur la terre qu'on l'obtient. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais on verra, si c'est vrai, eh bien on demandera pardon après, quand après notre mort, si c'est vrai, eh bien on aura le temps ». Il y a un verset, vous savez quand Jésus a guéri ce paralytique qu'ils ont fait descendre par le toit parce qu'il n'y avait pas de place tellement les gens étaient serrés. Et que cet homme, il est descendu, là, imaginez-vous cet homme, ce pauvre type dans ce lit qui est là, et tout le monde était offusqué parce que les pharisiens, les religieux étaient offusqués, la prédication était perturbée, et Jésus dit, voilà, tes péchés sont pardonnés. Alors, les pharisiens, ils n'ont pas dit à haute voix, mais en eux-mêmes, ils se disent, mais pour qui se prend ? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Ils n'avaient pas compris que Jésus était Dieu incarné. Mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner. Alors Jésus, connaissant leurs pensées, il va leur dire, mais lequel est le plus aisé ? De dire, tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire à cet homme, lève-toi et marche ? C'est quoi le plus facile ? C'est quoi le plus facile au fait ? C'est quoi le plus facile? Il faut m'aider. Qu'est-ce que c'est le plus facile pour Jésus, pour nous? Mais le plus facile pour Jésus, c'était de dire, lève-toi et marche. Parce que pour que les péchés de cet homme soient pardonnés, il fallait que Jésus meure sur le bois de la croix. Mais Jésus va dire à ses pharisiens, eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Afin que vous sachiez, il y a des choses, il faut les apprendre. Vous voyez, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, vous leur parlez de l'Église, moi l'Église, je m'en fiche, moi les pasteurs, je m'en fiche. Ils ne savent pas ce qu'ils font, les gens. Mais c'est grave. C'est vrai que Dieu est prêt à tout pardonner. Est-ce que Dieu peut pardonner n'importe quel criminel? Est-ce que Dieu peut prendre un Saul de Tarse et en faire un apôtre extraordinaire? Ben oui, la preuve, vous l'avez. Mais quand on ne sait pas ce qu'on fait, il faut quand même apprendre, il faut savoir que c'est sur la terre qu'on obtient le pardon des péchés. Et je peux vous dire, je comprends pourquoi le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Parce que la richesse, c'est sur la terre d'avoir le temps de faire la paix avec Dieu. Ça, c'est la richesse, la vraie richesse. Vous voyez, aujourd'hui, il y a 180, 190 000 personnes qui sont mortes sur la terre. Sur ce flot de personnes, combien ont accepté Dieu, combien ont rejeté? Mais croyez-moi que ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils aimeraient bien avoir la richesse de revenir sur la terre. 30 secondes pour dire la même prière qu'a fait le bonhomme, là, le brigand. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il ne faut pas longtemps pour dire ça. Il faut 20 secondes pour dire ça avec teneur et profondeur. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. De leur dire, Seigneur, je me suis pas occupé de mon âme, mais maintenant je veux le faire. J'ai gâché ma vie, mais je ne veux pas gâcher mon éternité. Parce que gâcher sa vie, moi je le dis souvent à des gens qui ont gâché leur mariage. Ça arrive, ça. Des fois on voit des gens qui ont gâché leur mariage. Je dis, écoutez, vous avez gâché votre mariage, mais ne gâchez pas votre éternité. Parce que des fois, on fait toute une fixation sur un échec. Ça peut arriver. Est-ce que ça peut arriver un échec? Ça peut arriver un échec? Ben, bien sûr. Mais il y a un échec avec un E majuscule, c'est l'échec éternel, de ne pas s'occuper de son âme. Donc, voyez, sachez que même si vous ne saviez pas trop ce que vous faisiez, vous pouviez savoir. En lisant la Bible, en écoutant la prédication, vous saurez ce que vous avez à faire. Parce que si Jésus a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, aujourd'hui, Dieu peut dire de beaucoup de chrétiens, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils ont appris à connaître ma parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a les gens faim. Alors, après, pendant que Jésus est en train d'enseigner le pardon, qu'est-ce que certains font? Certains, c'est les soldats, ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Quelle affaire là aussi? Des gens, des soldats, bon, ils faisaient leur travail. Qu'est-ce que c'est ton boulot? T'es militaire? Oui. Ah, ben j'ai été muté en Palestine. Je suis chargé de la crucifixion des prisonniers. Quand ils écrivaient à leur famille, ils ont dû l'écrire, non, à leur famille. Ils ont dû envoyer un mail, je ne sais rien, faire quelque chose. Ils ont bien dû le signaler. Voilà mon travail. Tous les mois ou tous les deux mois, je suis chargé de la crucifixion des malfaiteurs. Voilà, c'est un drôle de travail, mais enfin, bon, chacun son boulot. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des soldats qui se partagent les vêtements du Seigneur. Vous pouvez me dire, oh, de toute façon, ça ne servait plus à rien, ces vêtements. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui s'approchent de Jésus juste pour avoir des bénédictions du Seigneur? Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ne s'approchent de Jésus que pour ce qu'il peut leur donner? Et voyez, en tirant au sort, combien de gens, oh ben, on verra bien, si c'est vrai. Vous voyez, le hasard. Ah, je ne sais pas, j'ai été béni, peut-être. Oui, c'est peut-être Dieu qui m'a béni, j'en sais rien. Oh, des fois, je le prie, au cas où. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Les gens qui sont à côté de Jésus, juste pour obtenir quelques faveurs. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui bénit? Est-ce que Dieu est un Dieu qui pourvoit? Oui. Mais il ne faut pas s'approcher de Dieu que pour obtenir ses bénédictions. Je pense que ce n'est pas bon du tout de s'approcher de lui que par intérêt. Que par intérêt, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. Bon, les soldats aussi se moquaient, verset 36. Bon, les soldats se moquent, les magistrats se moquent. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Des soldats qui se moquent? Qu'est-ce que vous en pensez des soldats qui se moquent? Qu'est-ce que vous pensez des magistrats qui se moquent? Les magistrats, est-ce qu'ils n'auraient pas eu un dû avoir un peu le sens de la justice. Ils ont quand même une formation. Les soldats, bon, ils sont formatués. Donc ils se moquent, on se dit, bon, ils ne sont pas toujours tous futés, donc ils se moquent. Est-ce que vous comprenez ma pensée? Mais des gens qui ont étudié, des gens qui ont de la culture, du savoir, qui ont appris la justice, les magistrats, vous pensez qu'on aurait dû se moquer? Franchement, sérieusement, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui était enseigné dans la justice, il aurait dû se moquer? C'est pour vous dire, voyez, que même la moralité, l'éducation n'amène pas beaucoup de respect pour les choses spirituelles. Franchement, les magistrats n'auraient pas dû se moquer. Ils n'auraient pas dû se moquer. Mais c'est pour vous dire l'esprit de ce siècle, comment les gens sont méchants, combien les gens sont mauvais. Bon, je ne sais pas, moi, vous vous moqueriez, vous, de quelqu'un qui est en train de mourir, crucifié? Enfin, franchement, même ce serait quelqu'un qui ne soit pas chrétien, quelqu'un qui soit complètement opposé à vous, est-ce que vous vous moqueriez de quelqu'un en train de mourir? Sérieusement, même d'un animal en train de mourir, est-ce que vous vous moqueriez d'un animal en train de mourir? C'est pour vous dire combien le cœur de l'homme il est méchant, combien le cœur de l'homme il est mauvais. Et nous avons affaire à des gens qui se moquent, des gens qui rient, quelle que soit leur éducation. On pourrait penser que c'est les petites gens qui sont ignorants, qui rient. Eh bien, voyez, la preuve est non. C'est qu'il y a des gens très cultivés qui continuent à se moquer du Seigneur Jésus-Christ. Croyez-moi, c'est très révélateur. Un malfaiteur, l'injurier. On connaît tous, on a tous entendu prêcher sur ces deux brigands, le repentant, l'impie, un qui, tous les deux étaient crucifiés pour meurtre. Quelque part, ils méritaient la condamnation. À l'époque, en tous les cas, c'était comme ça. Et là, nous voyons qu'il y a deux réactions différentes. Comme quoi, voyez, les cultivés peuvent se moquer. Il y a un soldat, on va le voir tout à l'heure, qui réagit bien. Et là, nous voyons deux criminels qui réagissent diamétralement opposés. Un qui continue à l'injurier. Comme quoi, voyez, c'est pas parce qu'on va mourir qu'on est sensible aux choses spirituelles. Il va mourir, cet homme. Il le sait. Il va mourir. Il en a pour demi-heure, il en a pour 2 heures. J'en sais rien. Il va mourir. Il sait que c'est le jour de sa mort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il injurie Dieu. Il injurie Dieu. Pour nous, c'est peut-être pas une injure. Si c'était pas écrit, on ne dirait pas c'est une injure. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Vous savez, on injurie Dieu lorsqu'on se permet de lui dire, tu devrais faire ci, et tu devrais faire ça, et pourquoi tu fais pas ceci? C'est une injure. Peut-être que pour vous, ça ne l'est pas. Peut-être que pour vous, une injure, c'est prononcer des mots grossiers. Mais moi, je vous dis, selon le texte biblique, que injurier le Seigneur, c'est tout simplement lui donner des ordres et lui dire, il devrait faire ci et il devrait faire là. Et ça n'a pas du tout amené la bénédiction sur cet homme, parce que autant on se réjouit de voir l'autre brigand qui, lui, a assisté à toute cette crucifixion, qui a assisté à toutes ces paroles. Il a entendu les paroles de Jésus qu'il a prononcé sur la croix. Il voit qu'il a affaire au Seigneur. Et quand on a affaire à la prédication de la croix, c'est pour ça que j'ai pris ce verset dans les Corinthiens, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Dès que vous entendez la prédication de la croix, le Seigneur bénit ce message. Est-ce que c'est bien? C'est pour ça qu'il faut lire les évangiles. C'est pour ça qu'il faut relire la crucifixion. J'ai lu dernièrement une femme qui a écrit un bouquin. Elle a dit que dans son église, pendant 3 ans, le pasteur a prêché sur la prédication de la croix et ça a amené toute l'église à obéir à Dieu. L'église n'obéissait pas. L'église n'obéissait pas. Et cette femme, elle priait. Et le pasteur, pendant 3 ans, ça commence, il n'a prêché, pour ainsi dire, que sur la prédication de la croix. Enfin, elle dit ça, elle, qu'il a prêché que sur la prédication de la croix et que tous les chrétiens se sont mis à obéir parce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. C'est magnifique, ça. Et je peux vous dire que cette femme, elle ne raconte pas des blagues. Pourquoi? Parce que la prédication de la croix a le pouvoir d'ouvrir les yeux, même d'un criminel. Qui a été certaine, parce que même bon, quand on est amené à tuer plusieurs personnes volontairement, je veux dire que c'est qu'on a fait des choix terribles. Et bien, voyez, cet homme, il a été touché par la prédication, par la croix. C'est comme nous, par la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, ça va amener du respect, ça va amener le respect de Dieu. Si certains choisissent de rester injurieux et loin de Dieu, certains sont touchés par la prédication de la croix. Oui, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Et quand vous parlerez de la croix des gens, il y a des gens qui vous diront, mais n'importe quoi, mais tu crois qu'un message vieux de 2000 ans, ça va te faire du bien. Les gens continuent à se moquer. Moi, je me souviens quand on m'a dit que Jésus-Christ, j'avais 22, 21 ans, quand on m'a dit, tu sais, Jésus-Christ,
il est mort sur la croix. C'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu. Et c'est vrai, l'incarnation. Moi, j'allais à l'église de temps en temps, vous voyez, moi, l'église. Mais moi, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas que l'affaire de l'incarnation, c'était vrai. Et quand on m'a dit ça, je savais que c'était vrai. Je le savais. Et je suis persuadé que Dieu bénit la prédication de la croix. Quelle bénédiction pour ce brigand. Est-ce que vous vous rendez compte de ce brigand? Ce brigand, le matin, qu'on a réveillé peut-être, parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, donc il s'est endormi sur le matin. Non, je ne sais pas. Enfin, est-ce que c'est possible? Ça tient debout. Il savait qu'il allait être crucifié, ça m'étonnerait qu'il soit endormi de suite. Il s'est peut-être endormi sur le matin, tout d'un coup, il a entendu cloc-cloc du bruit, là, de la ferraille des soldats. Allez, sors-toi, c'est l'heure, c'est ton tour. Il a dû se réveiller. C'est mon... Imaginez-vous quand même. Et on pourrait faire un beau film de ça, non? Vous ne croyez pas? Et imaginez-vous cet homme, il a gâché sa vie, il va mourir crucifié. C'est une affaire terrible. Et vous vous rendez compte que quelques heures après, il était avec Jésus dans le paradis. Est-ce que ça valait la peine qu'il fasse une prière? Est-ce que ça valait la peine qu'il n'ait pas honte? Parce que bon, je ne sais pas s'il a eu honte. Je ne sais pas que si on, quand on va mourir, on a honte. Je ne sais rien. En tous les cas, il a dit, mais tu ne crains pas Dieu? On va terminer avec la parole de ce brigand. Vous l'avez déjà lu peut-être maintes fois. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné dans cette affaire, de tous ses comportements, c'est que ce brigand, qui, quand on lit l'évangile de Marc, injuriait Jésus. Au départ de la procession, il l'injuriait. Et regardez ce qui est dit. Mais l'autre le reprenait, verset 40, et disait, « Ne crains-tu pas Dieu ? Tiens donc. » Mais moi, de tout le texte, c'est la parole qui me touche le plus. Cet homme, tout d'un coup, craint Dieu. Vous avez vu ? C'est magnifique. « Ne crains-tu pas Dieu ?» Moi, c'est une parole qui m'a fortifié et qui m'a montré que la prédication de la croix a mené la crainte de Dieu, le respect de Dieu. C'est une affaire extraordinaire, ça, que Jésus soit mort. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui a tout créé, il est là, pantelant, sur la croix, en train de mourir, pour que nos péchés soient effacés. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Vous voyez, ce gars, il dit, mais c'est normal, on s'est mal comporté. Bon, aujourd'hui, on ne parlerait pas pareil, mais enfin... Mais celui-ci n'a rien fait de mal et il s'adresse à Jésus. Je ne sais pas si... Bon, c'est sûr que Luc a dû entendre. Ça a été entendu, ça a été rapporté. Ceux qui étaient à côté ont dû entendre. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Je ne sais pas, il n'osait peut-être pas dire « Sauve-moi ». Je ne sais pas. Quand on a été criminel, et peut-être que des fois on n'ose pas dire « Bénis-moi » quand on a été mal. Voyez, Seigneur, je ne sais pas. On prie en fonction de ce qu'on pense devoir demander. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il a compris qu'il était le roi, puisqu'il dit, quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que vous croyez qu'un jour Jésus va venir régner? Moi, je le crois. Parce qu'il l'a dit, parce que je peux vous dire que ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Souviens-toi de moi. Et oui, on peut terminer comme ce centenier, lui aussi chargé de l'exécution des prisonniers, au verset 47, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu. Vous voyez que la prédication de la croix, ça amène les gens à changer. Un autre officier de l'armée romaine, il a dit, cet homme, il n'était pas comme les autres, il y a quelque chose. Certainement, cet homme était juste. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous qui êtes là ce soir, dans ce lieu, avec moi, sous le regard du Seigneur, vous qui êtes venu écouter la parole de Dieu? Oui, si vous voulez changer, lisez les évangiles, continuez à lire, relire et à re-relire tous les textes sur la crucifixion, sur la résurrection, sur l'amour de Dieu. Et je peux vous dire que nous changerons. Nous changerons vraiment. En tous les cas, peut-être que vous faites partie de ceux qui ont dit à Dieu un jour, souviens-toi de moi. Je veux être ton enfant. Je veux être pardonné. Je veux que mes péchés soient effacés. Le seul Dieu qui a donné un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. On ferme les yeux quelques instants. Nous croyons, Seigneur, que tu as permis aux hommes d'être sauvés par la prédication de la croix. Il t'a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est vrai, Seigneur, que nous nous réjouissons de relire ces textes et nous voulons, nous retrouver dans le comportement de ceux qui ont obtenu le pardon. Nous voulons nous retrouver dans le comportement de ce brigand qui a crié à toi, de ce centenier qui a reconnu que tu étais le juste. Nous voulons, nous aussi, nous frapper la poitrine et Seigneur, te remercier du fond du cœur pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous ne voulons pas nous reconnaître dans ces gens qui t'ont insulté, qui se sont moqués. Non, Seigneur, nous voulons te demander d'augmenter dans nos cœurs la crainte de ton nom, le respect de toute ta parole. Nous voulons véritablement, Seigneur, avoir cet amour profond pour ta parole. Tu as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alors donne-nous, Seigneur, cet amour vraiment profond de ta parole pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus.